Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Professeur Lemieux, bonsoir.
Bonsoir.
Écoutez, qu'est-ce qu'on sait sur cette tragédie? Une nouvelle école, cette fois-ci une école primaire qui est frappée par un tireur fou.
Oui, donc on sait en ce moment qu'il y a environ au moins 14 enfants qui seraient décédés suite à cette tuerie de masse. Et peut-être même un prof, un enseignant, et peut-être aussi plus. On sait qu'il y a d'autres enfants qui ont été aussi admis à l'hôpital. Vous mentionnez juste avant de me faire intervenir qu'on ne sait pas si le tueur est décédé ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qui va probablement être confirmé dans les prochaines minutes ou prochaines heures, mais c'est semble que c'est la situation en ce moment.
OK. C'était au mois de décembre 2012. Une nouvelle frontière de l'horreur en termes de tuerie de masse était franchie. Un jeune déséquilibré est entré dans une école, a fait feu sur des jeunes d'une école élémentaire à Sandy Hook. Est-ce que je me trompe ou depuis, il n'y en avait pas eu de tuerie de masse comme ça dans des écoles élémentaires aux États-Unis?
Non, vous avez raison. C'est des événements qui sont extrêmement rares. La plupart des tueries de masse qui arrivent dans les écoles aux États-Unis, c'est plutôt dans les écoles, je dirais, les écoles secondaires principalement. Et c'est souvent commis par des jeunes qui ont entre 15 et 18 ans en général. Et c'est souvent une action en réaction, si vous voulez. Il y a des actes de bullying et des phénomènes de clique à l'école, de l'isolation, ou en fait, peut-être que le jeune se sent repoussé ou pas intégré, etc. Mmh. Il y a aussi souvent des problématiques de psychologiques et psychiatriques qui sont là aussi, mais ça arrive avec des jeunes qui sont plus vieux en général.
Et en général, quand ce sont dans des écoles, c'est dans des écoles, bien souvent des écoles secondaires.
Oui, c'est ça. Des écoles secondaires, puis je dirais aussi qu'il y a une particularité géographique aussi à ce type d'événement. On remarque plus souvent que ces événements-là de mass shooting arrivent en milieu rural ou dans des milieux semi-urbains, semi-ruraux. Et rarement sur des campus d'écoles qui sont en milieu urbain, par exemple. Donc, on voit ce genre de concentration géographique d'événements dans ces lieux-là.
Et le plus souvent, ces tueries-là sont commises avec des armes légalement acquises.
Oui, c'est souvent des armes qui proviennent de la maison. Donc, un jeune va probablement prendre les armes de ses parents ou va avoir, d'une manière ou d'une autre, acquis ces armes-là d'amis ou quelque chose comme ça. Mais oui, c'est rarement des armes illégales achetées sur un marché noir quelconque. Ouais.
D'après vous, ça va prendre combien de temps avant qu'on passe à un autre appel là, dans la foulée de cette tuerie-là dans une école élémentaire au Texas?
Tout le monde pensait que Sandy Hook, ça allait être... le game changer, c'est jamais arrivé. Donc ça, je pense pas non plus. Puis, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'à chaque fois que ces événements-là surviennent, ça vient totalement à l'encontre de l'idéal type de la raison pour laquelle il faut avoir plus d'armes. Hein. Par exemple, on dit toujours que ça prend un bon gars avec une arme pour arrêter un mauvais gars avec une arme. Puis regardez, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est pas vraiment le cas. Donc c'est vraiment problématique. Puis c'est que le discours non, il change pas. Et puis moi, je vous dirais aussi, sans vouloir être un peu trop cynique, je vous dirais que j'en viens à conclure, après des années d'études sur les phénomènes de mass shooting, que les démocrates, en fait, se servent de ces événements-là pour rallier leur base, pour mobiliser leur base. Mais si on regarde les efforts, les vrais efforts, c'est-à-dire de ralliement des législateurs pour passer des nouvelles lois pour le contrôle des armes à feu, on n'en voit pas d'efforts comme ça. Il n'y en a pas. Biden, ça fait quand même un bout de temps qu'il est au pouvoir. Là. Il s'en va vers les primaires. Et puis pas les primaires vers les
élections de mi-mandat, au mois de novembre.
C'est ça, le mi-mandat. Et puis on voit pas vraiment d'action de ce côté-là. Puis pourtant, ça faisait partie de sa campagne électorale.
Mais est-ce que les démocrates pourraient agir au Congrès ou est-ce que leur majorité est pas assez grosse pour est pas assez vaste?
Je pense pas que la majorité soit assez grosse. Si on regarde par exemple des gens qui sont normalement du côté démocrate au niveau du vote au Sénat, Joe Manchin, Virginie de l'Ouest, oubliez ça, il va pas voter pour une loi qui va restreindre, si vous voulez, l'accès aux armes à feu. Et puis même si vous pensez à Bernie Sanders, allez voir sa cote à Bernie Sanders pour les armes à feu, juste pour voir. Puis c'est un grand supporteur des armes à feu. Donc juste là, vous venez de perdre 2 votes sur vos 50, vous êtes à 48, ça passe pas.
C'est quand même, expliquez aux gens qui nous écoutent, professeur Lemieux, là, vous êtes aux États-Unis, vous êtes à l'université de Georgetown, vous connaissez bien la mentalité américaine, c'est votre sujet d'étude, les armes, un de vos sujets d'étude. Oui. Expliquez comment il y a ce décalage entre l'opinion publique américaine puis les législateurs, parce que l'opinion publique américaine, majoritairement, veut un meilleur contrôle des armes à feu.
Oui, ça c'est vrai. On peut dire que dépendamment des années, dépendamment de quand est-ce que vous passez votre sondage, après un événement comme celui-là, c'est certain qu'on va probablement atteindre un autre sommet de, je serais pas surpris de voir 80% de l'opinion publique qui serait en faveur de certains contrôles pour l'acquisition d'armes à feu et même sur certains types d'armes à feu. Le problème, c'est les lobbies. Les problèmes, ça vient du point de vue de qui, en fait, contrôle les politiciens, hein, les politiciens qui sont souvent à la recherche de support financier. Puis on parle pas juste de la NRA, là. Je sais que la NRA, ça a été un sujet de controverse pendant des années, mais aussi les armateurs qui sont derrière tout ça, ceux qui produisent les armes, les armuriers, tout ça. C'est quand même un lobby assez puissant. On parle quand même de 30 quelques milliards par année de revenus liés aux armes à l'intérieur des États-Unis. Donc c'est quand même un marché qui est extrêmement gros, qui est extrêmement varié, mais dont la balance penche principalement du côté républicain, c'est certain, à cause de l'alignement idéologique et de l'alignement politique.
On sait que aux États-Unis, les victimes de crimes par armes à feu ne peuvent pas poursuivre les fabricants d'armes à feu. Mais là, dans le cas de Sandy Hook, il y a eu des poursuites et j'aimerais ça que vous expliquiez comment les parents des victimes de Sandy Hook, il y a 10 ans, ont réussi devant les tribunaux récemment là, quand même à tenir les fabricants d'armes responsables.
Ouais, ben voilà, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont quand même réussi à c'est ce que j'appelle une opération ou une action jiu-jitsu légale, c'est-à-dire qu'ils se sont servis du poids et de la force, si vous voulez, de leur adversaire pour retourner ça contre lui. C'est que la loi qui protège, ou en fait la loi qui est une sorte de d'ombrelle qui protège, si vous voulez, les fabricants d'armes, c'est le fait que les armes sont généralement achetées pas pour tuer du monde, mais pour se défendre ou pour le sport, pour la chasse et tout ça. Et puis là où les fabricants d'armes impliqués dans l'AR-15 notamment pour Sandy Hook, c'est qu'ils faisaient la promotion de l'arme comme une arme d'assaut. Hein? AR-15, c'est Assault Rifle 15, right? Mm-hmm. C'est AR-15. Donc dans le mot assaut, c'est pas le mot défense. et c'est de la manière, ce que je dis là, c'est pas juste une question sémantique là, je veux dire c'était quand même plus démontré que ça, c'est-à-dire que de la manière dont ils commercialisent, la manière dont ils font le marketing de certaines armes, carrément ils le font comme préparez-vous, il va falloir que vous êtes un peu à la survivaliste et tout ça. Donc, ça devenait beaucoup plus, ça donnait, si vous voulez, une optique vraiment plus agressive, plus violente et plus offensive en termes de offensive au lieu de défensif. Et c'est sur cette base-là que les gens qui ont poursuivi, si je ne me trompe pas, c'est Remington, qui ont poursuivi Remington se sont vus vraiment là supportés, si vous voulez, par les tribunaux dans cette démarche-là. Et c'est ce qui vient aussi lancer, si vous voulez, une sorte d'avertissement quand même assez important, si vous voulez. On va voir qu'est-ce que ça va donner en termes de précédent, mais ça vient donner aussi un avertissement assez important à l'industrie, parce que là, si Le fait de vendre des armes et de les commercialiser comme étant des armes d'assaut, si vous voulez, ça vous protège plus et même que ça vous rend, si vous voulez, plus vulnérable sur le plan légal pour des poursuites judiciaires qui pourraient justement vous mettre dans la rue, qui pourraient vous faire faillite. À ce moment-là, ça devient problématique pour la survie de certaines entreprises. Puis là, on l'a vu, là, il y a des compagnies en ce moment, des compagnies d'armes à feu, des grandes compagnies d'armes à feu qui se sont mises sous la protection de la loi de la faillite pour différentes raisons, mais entre autres pour celle-là.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Merci.
Bonne journée. C'était Frédéric Lemieux, qui est professeur à l'Université Georgetown aux États-Unis, spécialiste du contrôle des armes à feu, des tueries de masse. Je vous rappelle, 14 morts, 14 enfants morts dans une école primaire au Texas, un adulte, et ABC News là, et d'autres médias américains rapportent que le tireur, âgé de 18 ans, lui aussi est décédé. Il aurait tué sa grand-mère avant d'aller commettre le massacre à l'école élémentaire. Salut Luc.
Salut Patrick.
Donc il y a 10 ans, presque jour pour jour, non pas presque jour pour jour, là c'était au mois de décembre, à quelques mois près, ben c'était Sandy Hook, il y avait près de 30 élèves qui avaient été tués dans une école primaire dans un massacre, et là ben on est à 14 élèves massacrés au Texas.
C'est horrible et il y a pas de mots pour le décrire. Puis d'habitude les élus américains prennent une pause dans les jours, dans les heures qui suivent la tuerie pour exprimer leurs condoléances puis leurs thoughts and prayers, comme ils disent aux États-Unis, envers les parents notamment de ces enfants décédés. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois en regardant sur Twitter, là, je vois les Anna Eskami, Wendy Davis et compagnie là, monter au front immédiatement. Et avec des mots assez durs, « When will enough be enough? » Puis Wendy Davis qui dit arrêter cette épidémie insensée de tuerie par les armes ne va jamais arriver si on continue de rester assis sur nos mains. Donc dans les minutes suivantes c'est une élue du Texas, dans les minutes suivantes la tuerie, on voit là la frustration, le désespoir, la détresse de la société américaine par la voix des élus démocrates qui disent on n'en peut plus.
Mais Luc, comment t'expliques que une société avancée, les États-Unis là, comment t'expliques qu'il y a tant de gens qui s'attachent comme ça à leurs armes, tant de gens qui sont en faveur d'une libre circulation avec le moins d'entraves possible et si possible pas d'entraves du tout d'armes de destruction massive comme on le voit là au Texas.
Mais ma première explication, ce serait que c'est un cercle vicieux. La violence attire la violence et il suffit qu'il y ait un mort, même très très loin de chez toi, dans une rue, le soir, tard, pour qu'une personne dise « ben moi je vais m'armer ». Puis à partir du moment où il y a une arme dans la maison, on le sait qu'il y a une augmentation du nombre de morts. Quelles que soient les intentions de pacifiques des gens qui habitent dans cette maison-là, là, il y a des armes. La mort par arme à feu aux États-Unis, c'est pas toujours quelqu'un qui prend son arme pour tuer. Là. Ça l'est souvent, mais pas toujours avec des intentions meurtrières. C'est un problème de santé mentale, par exemple. La plupart du temps, un problème de santé mentale. Comme là, sans doute, tu tues pas 14 enfants si t'as pas un problème. Puis ta grand-mère, puis l'éducatrice de 66 ans, si t'as pas un problème de santé mentale. Mais une arme à feu dans les mains de n'importe qui a un problème de santé mentale à travers le monde, ça va sans doute se traduire par des morts. C'est pas typique de la société américaine, les problèmes de santé mentale. Ce qui est typique de la société américaine, c'est la disponibilité des armes. Il y a 45 000 morts par arme à feu cette 2020 aux États-Unis, à 2020. Prends les statistiques de 2020, 45 000 morts. 19 000 par homicide, 25 000 par suicide. Puis 45 000 blessés. Tu te rends-tu compte? 45 plus 45, ça fait 100 000, ça, à peu près, là. Puis aussi 110 000 morts par overdose, qui est aussi une mort qui est causée par la détresse. Fait que 200 000, à peu près. Mais prenons, restons juste sur les armes à feu, là. 100 000 morts par arme à feu de personnes. Il n'y a pas, ce ne sont pas 100 000 criminels endurcis, là. C'est pas ça. Et le taux de meurtre aux États-Unis est en train d'exploser. Tu sais, avant, dans les années 70, ça a connu son pic à peu près dans les années 73, 74. Et depuis ce temps-là, ça descendait. Le plus bas qu'il a été, ça a été en 2014. Il y a peut-être eu des années avant 74 où c'était aussi bas qu'en 2014. Là, mais disons, si on prend là, la tranche 74 à aujourd'hui. Donc, depuis 2014, ça a recommencé à augmenter, mais en flèche. Ça a augmenté en flèche. Et vois-tu, en 2020, il y a 45 % plus de meurtres aux États-Unis qu'il y a 10 ans. Donc, il se passe quelque chose aux États-Unis.
Ben, ça a été documenté, là, puis ça remonte à avant la pandémie. Là, il y a toutes sortes de mauvais comportements, dont les meurtres, les voies de fait, etc., qui sont en hausse aux États-Unis. Mais, tu sais, Luc, les gens peuvent être aussi choqués ici. T'sais, tu te chicanes pour un parking, par exemple, là, chez Walmart. Là, une chicane niaiseuse, là. Mais ici, les chances, statistiquement, il y a peu de chances que la personne avec qui tu te chicanes a un gun.
Voilà.
Ça peut aller, malheureusement, il y a peut-être des claques qui vont s'échanger. Mais aux États-Unis, statistiquement, ça se peut que quelqu'un ait un gun.
Ben absolument. Et non seulement ça se peut que cette personne-là ait une arme sur lui, ça se peut que cette personne-là ait plusieurs armes à la maison. Parce que la statistique sur les armes, les gens qui possèdent des armes, c'est phénoménal. Les gens qui en possèdent beaucoup. Donc, 10 et plus, là. J'ai pas les statistiques devant les yeux, là, mais les gens qui possèdent 10 armes et plus aux États-Unis, c'est absolument impressionnant, là. Donc, cette idée-là que je vais avoir besoin d'une arme. Tu sais, même si tu l'as pas dans les mains, mais cette idée-là, quand tu vis avec l'idée que tu vas peut-être avoir besoin d'une arme, c'est un cancer. C'est quelque chose qui va bien au-delà de l'achat de l'arme, là.
Mais on est, comment je te dirais, là? On est loin. Tu peux pas remettre le dentifrice dans le tube. Tu sais, je veux dire, à moins d'obliger les Américains à ramener leur gun puis à les faire détruire, là, ce qui provoquerait, à mon sens, une sorte de guerre civile, là, tu vas pas régler le problème.
Non, il y a pas de solution possible. Et moi, je peux juste imaginer une fracture qui va continuer d'empirer. Puis c'est pas juste les armes à feu, là, c'est aussi... comme cette idée-là, le paranoïaque de « j'ai besoin d'une arme ». Quand Kyle Rittenhouse, là, le jeune homme qui a tué deux manifestants et qui a été jugé non coupable parce qu'il considérait que sa vie était en danger, tu te rappelles de lui?
Dans les manifs Black Lives Matter là, en 2020.
Il a tué deux hommes non armés qui étaient parce qu'il a jugé qu'à un moment donné, sa vie était en danger, alors que lui était avec une arme à la manifestation pour défendre sa ville, disait-il. Puis d'ailleurs, c'était pas sa ville, il venait de loin. Et il y a eu un soutien de la part d'une grande partie de la population républicaine la plus radicale, pas n'importe quel républicain, mais les plus radicaux. Et ça m'avait jeté par terre. Ça, je m'étais dit, aïe aïe. C'est cette idée-là qu'on vit dans un Far West de pire en pire, puis qu'on va pas s'en sortir, puis que c'est seulement par les armes qu'on va s'en sortir, moi, ça me jette par terre. Il y a quelque chose d'autre à laquelle j'ai pensé. Ça m'était aussi venu à l'époque de Sandy Hook. Si les États-Unis, hier, avaient été victime d'une attaque terroriste, un pays qui avait financé une attaque terroriste aux États-Unis puis qui avait tué 15 enfants au Texas, une grand-mère puis une éducatrice. Peux-tu imaginer les moyens mis en place par l'Amérique pour se venger? Peux-tu imaginer le nombre de porte-avions, le nombre de drones, le nombre... ça aurait été comme ça s'est passé en Irak après les attentats de New York. L'Amérique aurait fait preuve d'une capacité de réaction là, extraordinaire. Pendant qu'on se parle, là, il y a des ambassadeurs partout sur la route de ce pays-là qui auraient été contactés pour obtenir le passage par-dessus leur pays par des vols américains, réserver des espaces dans les ports, etc. Puis après, là, la flotte américaine se serait mise en direction de ce pays-là. Puis deux jours plus tard, les premiers missiles Tomahawk seraient tombés sur l'ennemi. Une capacité de réaction. Mais là, devant ces démons interne, la capacité de réaction, elle est immobilisée. Ça me tue.
Merci, Luc.
Merci à toi.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Donc oui, pendant que les élites mondiales se retrouvent au Forum économique de Davos, ben il y a des millionnaires et des milliardaires de différents pays qui, eux, réclament d'être plus taxés. Pourquoi? Pour diminuer les inégalités. Ils sont près de 150 à avoir signé une lettre « In tax we trust ». Jeu de mots en anglais qui dit « nous faisons confiance », disons, aux impôts. Ça a été présenté pour la première fois lors d'une conférence virtuelle de Davos, toujours à Davos en janvier. On a appris aujourd'hui que l'acteur américain Mark Ruffalo s'ajoute à cette liste de gens très fortunés qui interpellent les participants de Davos. Et parmi les signataires, il figure 5 Canadiens, dont une Montréalaise, Claire Trottier. Elle est l'héritière de la fortune de la famille Trottier. Lorne Trottier, son père, a fondé une compagnie qui s'est avérée extrêmement lucrative. Elle est au bout du fil. Madame Trottier, bonjour.
Bonjour.
Ben, d'abord, peut-être nous parler de votre situation. Je vous ai déjà lu où vous expliquez que, oui, vous êtes d'une famille riche et tout ça vient d'une loterie, la loterie de la vie. Vous avez été chanceuse. Mmh. Et loin de dire que vous ne devriez pas être taxé, vous pensez que des gens comme vous devraient être imposés davantage.
Oui, tout à fait. Alors, je pense que c'est clair que dans les dernières années, que les riches sont devenus plus riches, surtout pendant la COVID. On a vu les 10 hommes les plus riches sur la planète doubler leur richesse pendant que 99% de la planète s'est appauvrie. Donc, on vit dans une période où il y a des inégalités importantes et grandissantes. Et je crois que c'est vraiment une responsabilité pour les personnes plus fortunées de contribuer à la société en étant taxé davantage.
OK. Par exemple, dans votre cas, est-ce que vous estimez, Mme Trottier, que vous êtes suffisamment imposée par le Québec et le Canada?
Non, je pense pas que je suis suffisamment imposée. Je pense qu'il y a une distinction importante à garder en tête, que lorsqu'on a un salaire, on est taxé sur notre salaire. Mais la richesse comme telle, alors si on a accès à une richesse importante, on investit dans, je sais pas là, le TSX ou quoi que ce soit, ben cette richesse-là n'est pas taxée et cette richesse-là peut augmenter de façon importante. Alors, une personne qui reçoit un salaire est taxée à un niveau plus important que les personnes riches qui ont accès à une plus grande richesse.
C'est pas très populaire dans les cercles de millionnaires de parler d'imposition supplémentaire pour les gens qui sont riches, par contre.
C'est sûr que quand on parle d'argent, c'est toujours tabou dans tous les sphères de la vie. Mais je suis heureuse de constater que quand même, il y a certaines personnes riches qui sont en train de s'activer là pour essayer de convaincre les décideurs politiques de mettre en place une taxe sur la richesse.
Ça devrait ressembler à quoi, disons, dans le détail, là, taxer davantage les gens qui ont de l'argent qui travaille pour eux quand eux ne travaillent pas, par exemple? Ça ressemblerait à quoi?
Ben, je pense que quand on rentre dans les détails, je suis pas une experte en fiscalité, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu une étude qui a été publiée en janvier avec un groupe qui s'appelle Patriotic Millionaires, entre autres, où ils ont calculé qu'une taxe sur la richesse au Canada, parce qu'ils ont fait une étude dans 40 pays, au Canada, ils ont calculé qu'une taxe sur la richesse pourrait générer près de 79 milliards de dollars par année au Canada, et que ceci serait une taxe de 2% sur la richesse au-dessus de 5 millions, 3% sur une richesse au-dessus de 50 millions et 5% sur une richesse au-dessus de 1 milliard. Mmh. Donc, avec un niveau de taxation comme ça, ça nous offrirait beaucoup plus de sous pour confronter le système de la santé qui a besoin d'aide, la crise climatique, entre autres. Puis ça n'aurait aucun impact sur ma vie à moi, ni sur la vie d'autres personnes riches.
Votre sœur Sylvie Trottier a aussi signé cette pétition-là. Votre père, Lorne Trottier, j'ai pas vu son nom sur la liste.
Oui, mes parents sont plutôt privés, là. Ils sont pas des personnes qui se prononcent sur la place publique. Mais moi et ma sœur, on est un peu plus à l'aise avec ce genre de prise de position-là. Ouais.
OK. En avez-vous parlé avec votre père?
C'est sûr qu'on parle de toutes sortes de sujets en famille. Mes parents sont, je dirais qu'ils vont s'entendre très bien sur plusieurs sujets. Ils sont très fiers de moi. Alors, je vais laisser ça comme ça.
OK, mais sur ce sujet-là, est-ce qu'ils sont d'accord?
Je pense qu'en général, ils sont d'accord, oui.
OK. OK, puis ouais. Écoutez, je m'excuse de vous mettre sur le spot, ouais. comme on dit, mais quand même, je veux dire, vous l'avez déjà dit, vous avez gagné la loterie de la vie, Mme Trottier, puis c'est parfait, là. Ça, on peut pas vous reprocher là d'être né dans une famille riche. Puis je connais un peu votre parcours, vous êtes loin des tapis rouges puis des yachts d'oligarques russes, vous êtes plus proche du plancher des vaches, parfait. Mais la réticence de votre père à signer, ça peut dire quelque chose aussi sur le fait que les gens qui sont riches n'ont pas envie d'en payer bien souvent bien plus, là.
Ben, je pense qu'il y a certaines personnes que je dirais que oui, là, ils veulent pas payer nécessairement. Mmh. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont peut-être d'accord, mais qui veulent nécessairement passer à la radio avec Patrick Lagacé.
Non, je comprends. Mais il y a un phénomène qui est formidable quand on parle d'imposer davantage les gens qui en ont les moyens, OK? Et c'est des gens qui sont de milieux modestes, des gens qui sont souvent des gangs petits, qui vont lancer des tomates à ceux qui pensent que c'est une bonne idée d'imposer les riches, comme si demain matin, eux allaient être plus imposés. Au contraire, ils en profiteraient. Comment vous expliquez ça?
Oui, c'est difficile à expliquer. Je ne sais pas, mais je peux vous dire que les sondages démontrent que 75 % des Canadiens sont à faveur d'une taxe sur la richesse. Puis ça, c'est même la majorité des personnes à travers toute la géographie du pays, puis même selon les différentes affiliations politiques. Donc, c'est quand même une idée qui est très, très, très populaire. Mmh. C'est sûr qu'il y a toujours des gens qui vont être contre, mais en général, je pense que les gens sont en faveur. Puis c'est pas monsieur, madame, tout le monde là, qui vont être taxés. Là. C'est des personnes, comme je disais, là, la proposition du groupe Patriotic Millionaires. Si vous avez moins de 5 millions de dollars dans votre compte de banque, vous allez pas être taxé plus. Alors, je pense que, ouais, c'est quand même quelque chose qui va avoir un impact vraiment sur le 1% là, des plus riches.
OK. Et à qui vous vous adressez quand vous envoyez une lettre, quand vous signez une pétition semblable?
Mais cette lettre est adressée aux participants de Davos, là, cette lettre en particulier, mais en général, je dirais ici, je m'adresse aux décideurs canadiens, là, les gouvernements provinciaux, fédéraux, pour dire que c'est quelque chose qu'ils devraient mettre en place, là, une taxe de la richesse et d'autres mesures aussi fiscales, notamment les échappatoires. Il y a toutes sortes de mesures fiscales qui pourraient être mises en place pour adresser les inégalités grandissantes et répondre aux besoins de la population aussi.
Très intéressant. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui, Mme Trottier. Je pense que c'est un débat qui vaut la peine d'être fait sur la place publique.
Bien, merci à vous.
À la prochaine. C'était Claire Trottier. Bien, Claire Trottier, vous l'avez entendu, elle est l'héritière de Lorne Trottier, la famille Trottier. Monsieur Trottier a fondé une entreprise qui a été très, très lucrative. Maintenant, elle est membre du comité administratif de la Fondation familiale Trottier. Et jusqu'à tout récemment, elle était professeure aussi à l'Université McGill. Samedi, je le disais, il y a une partie du sud du Québec qui a été balayée par une tempête de vent, une ligne d'orage extrêmement puissant. Vous avez vu les images là, des arbres déracinés qui bloquent les routes, qui cassent les lignes électriques, des arbres qui tombent sur des maisons, qui les endommagent. Et le sud de l'Ontario, nos amis de ce qu'on appelle l'Est ontarien autour de Hawkesbury ont vécu la même chose. À Ottawa, ça a frappé très fort aussi. Et on peut dire que l'alerte d'Environnement Canada qui nous a fait sursauter vers 17h30 samedi, était peut-être dérangeante, peut-être criarde, mais on voit que c'était totalement justifié parce qu'aux dernières nouvelles, la tempête a fait 10 morts et dernière mise à jour d'Hydro-Québec fait état de 110 000 clients qui sont toujours privés d'électricité. Ça pose, bien sûr, la question des changements climatiques. Mais on le sait, il faut sortir du carbone pour les générations futures. En fait, il aurait fallu commencer à sortir du carbone il y a 30 ans quand on a commencé à s'y intéresser sérieusement et politiquement au sommet de Rio. Et on le sait aussi, la volonté que ça prend dans le monde entier pour sortir du carbone, la volonté politique, elle est juste pas là. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste la préparation. Et ce que la tempête de vent de samedi met à l'ordre du jour, c'est justement la question de la préparation locale au changement climatique, au phénomène météo extrême. Et ça, la préparation locale, ça dépend pas d'un traité international qui sera pas respecté. Ça dépend pas de la volonté des géants russes, américains, chinois, indiens. Ça dépend pas des intérêts des actionnaires des grandes compagnies de pétrole Ça dépend de nous, dépend de nos municipalités, de nos gouvernements provinciaux, de notre gouvernement fédéral. J'écoutais le climatologue Alain Bourque ce matin chez Paul Arcand. Il est avec Ouranos, c'est un groupe de recherche qui se spécialise dans les changements climatiques, font des travaux très, très intéressants là-dessus, très lucides sur la préparation notamment. Et M. Bourque parlait d'une toute petite mesure qui me semble symbolique du travail à faire en matière de préparation, en matière d'adaptation. Il a parlé de la nécessité, et c'est très là, basic, de mettre à jour les codes du bâtiment. On va l'écouter.
Présentement, c'est en révision. Puis ça va aussi profondément que, par exemple, de déterminer le nombre de clous qui est recommandé de mettre pour s'assurer qu'une feuille de plywood soit solidement ancrée, là. Et donc, il est possible, dans ce code-là, là, de rendre les bâtiments neufs, naturellement, là, ou encore les rénovations, beaucoup plus robustes lorsque viennent les tempêtes, que les toitures de maisons arrachent beaucoup moins facilement.
Le climatologue Alain Bourque, chez Paul Arcand ce matin, qui parlait de mettre à jour, de renforcer les codes du bâtiment. Ça, c'est un exemple. Mettre plus de clous sur des planches de plywood quand tu construis une maison. Mais je vous le dis, un exemple, mais en aviez-vous déjà entendu parler? Aviez-vous déjà entendu parler de l'importance d'adapter les codes du bâtiment pour les changements climatiques? Pas moi. Mettons que c'est pas au sommet des priorités. C'est un sujet qui est moins sexy que la couleur de la margarine, mettons. Ça déchire moins les imaginaires. Personne qui se déchire là-dessus dans les soupers de famille. Mais il faut parler des façons d'atténuer les impacts des phénomènes météo extrêmes liés au changement climatique. Il faut parler des milieux humides qui sont des éponges puis qu'on a tendance à bulldozer pour faire des projets de condos. Pourquoi? Ben, ça absorbe l'eau quand il y a des inondations. Il va y avoir plus d'inondations dans les prochaines années. Hydro-Québec. Hydro-Québec doit se poser des questions aussi. Madame Brochu, la PDG, l'a admis. On a pris du retard à la Société d'État ces dernières années dans l'élagage des arbres autour des lignes de haute tension. Ben, avec la multiplication des tempêtes, des phénomènes météo extrêmes, c'est clair que ça va faire tomber des lignes électriques. Il va falloir élaguer pour s'assurer que quand les arbres tombent, ben, ils tombent pas sur les fils électriques. Des millions de Québécois qui dépendent du transport de l'électricité par les lignes de haute tension en forêt. Donc, ça pose aussi la question, est-ce qu'on est prêt? Je pense qu'il faut commencer à mettre ça au centre de l'ordre du jour politique, social. Il y a mille choses à planifier, à modifier. Puis ça, ben, ça va passer par des politiques publiques, des règlements, des plans de contingence. Ça commence avec des clous, plus de clous sur des planches de plywood pour que les maisons soient mieux protégées, tiennent le coup quand il y a des scénarios catastrophes comme en fin de semaine. Donc, on commence avec les clous, puis on va jusqu'à des scénarios encore plus catastrophes. Vous savez, il fait de plus en plus chaud l'été. Et chaque été, on bat le record de chaleur qui avait été établi l'été d'avant. Mais il y a des forêts qui brûlent. On est chanceux au Québec. Quand ça brûle, bien souvent, ça brûle loin des zones habitées. On fait quoi s'il y a une partie des Laurentides, de la Naudière, de l'Estrie, qui commence à flamber à cause d'incendies de forêt? Et ce sont des zones habitées, là, bien souvent. Là. On n'est pas dans toundra, là. Comment on avertit les gens pour qu'ils doivent évacuer? Comment on évacue le monde après ça? Comment on relocalise les sinistrés où? C'est le genre de questions qu'il faut commencer à se poser. Comment on aménage les forêts aussi pour donner plus de temps aux gens de fuir? Ça fait partie des choses qu'on peut faire ici, maintenant, tout de suite au Québec. On n'a pas à dépendre des Indiens, des Américains, de Shell, de BP. On peut faire ça maintenant, des choses comme ça. Donne un ou deux exemples, mais il y en a plein. Des questions comme ça, il y en a des centaines. Et à l'heure où, parce que la planète est à broil, ben les phénomènes météo se multiplient. On devrait y penser tout de suite. Je pense qu'il est trop tard pour que de notre vivant, les plus vieux, là, les adultes, les gens de 50 ans et plus, disons, là, on stoppe les gaz à effet de serre. Ça, je pense qu'on l'a raté le train. Peut-être le faire encore pour nos enfants, nos petits-enfants, mais de notre vivant, là, dans les 25 prochaines années, je pense que ça n'arrivera pas. Mais il n'est pas trop tard pour se préparer. Et ce qui s'est passé en fin de semaine, c'est un autre appel. Ça devrait, la préparation au changement climatique, ça devrait nous préoccuper beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Ça a été une longue saga et le projet de loi 96 qui se veut, en quelque sorte, là, la version 2.0 de la loi 101 qui vient la renforcer, ben elle vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale. Je lève les yeux vers les téléviseurs. Le premier ministre François Legault est en point de presse, flanqué de Simon-Jolin Barrette et est en train d'expliquer les positions du gouvernement caquiste. Donc, notre prochaine invitée pour parler de l'adoption du projet de loi 96 est une fille d'immigrants qui ne parlait pas français à leur arrivée du Liban. Elle est aussi désormais députée de Mercier pour Québec solidaire. Rouba Gazal est avec nous. Madame Gazal, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Lagacé.
D'abord, votre parti a appuyé le projet de loi 96. Qu'est-ce qui motivait Québec solidaire à l'appuyer?
Oui, bien, à Québec solidaire, là, depuis toujours, depuis notre fondation, la protection du français, c'est extrêmement important. C'est la langue commune, la langue autour de laquelle tous les Québécois, peu importe leurs origines, qui sont nés ailleurs que moi, ne parlant pas français, ou qui sont ici depuis 400 ans, bien, c'est important de la protéger. Puis pour nous, c'est aussi une question de justice sociale. Hein. C'est pour ça que les syndicats aussi, dans leur histoire, ont toujours protégé le droit de travailler en français. Fait que c'est pour ça qu'on l'a appuyé.
OK, on va commencer avec ce que vous aimez pas, par contre, de cette loi-là, parce que vous avez dit qu'elle aurait dû être amendée de quelque manière. Là. Et après ça, on parlera de ce que vous en aimez pas mal. Donc d'abord, vous êtes bouché le nez sur quel amendement?
Ben en fait, nous, notre engagement là, à Québec solidaire, si on forme le gouvernement, c'est tout de suite de rendre inopérant le 6 mois. Ça, il y a un article dans le projet de loi qui interdit aux agents de l'État, sauf plusieurs exceptions, de s'adresser à des immigrants qui sont ici, des immigrants ou des réfugiés qui sont ici depuis plus de 6 mois. T'sais, au début, avant leur arrivée, on peut leur parler d'autres langues, notamment l'anglais, mais aussi leur langue maternelle avec des interprètes. Après 6 mois, c'est terminé. Puis là, il y a des exceptions. Moi, je donne mon exemple. Vous avez parlé que moi, je suis née ailleurs. Quand je suis arrivée au Québec, je parlais pas le français. J'ai été dans une classe d'accueil dans une école publique à Montréal. Et ça faisait plus de 6 mois qu'on était au Québec quand mes parents ont fait une rencontre, qu'il y en a eu d'autres aussi, avec mon prof de classe d'accueil. Il leur disait dans quoi je m'améliorais, dans quoi je devais m'améliorer, comment m'aider à améliorer mon français, tout ça, pour que mes parents puissent m'aider dans mon parcours scolaire. Mais toute cette réunion-là avec mes parents, ben ça s'est passé en anglais parce que mes parents, pour m'aider, fallait qu'ils comprennent ce que le prof leur disait, qu'ils ne parlaient pas le français encore à l'époque. Donc, c'est cette expérience de bienveillance qui est importante. Malheureusement, dans le projet de loi, le ministre, malgré le fait que je lui ai demandé de prolonger ce délai-là de 3 ans, après ça, je lui ai demandé de 2 ans, il a toujours refusé. Ben, ça va être important pour nous, à Québec solidaire, de rendre ça inopérant. Ça, c'est un point sur les 200 articles avec lesquels on n'est pas d'accord.
Mais le point principal qui vous rebutait, là, c'était ça. C'était la question des 6 mois de grâce avant d'être obligé de transiger en français.
Oui, puis on n'est pas les seuls. Je veux dire, à Québec solidaire, on écoute les gens qui sont en lien à tous les jours. Il y a des organismes qui sont en contact avec des réfugiés, des immigrants qui nous disent que ça n'a pas de bon sens. De toute façon, là, rendre ça opérationnel, là, ben, ça arrivera pas, là.
Mais justement,
ça, inquiéter les gens.
Je veux vous entendre là-dessus sur le fait de rendre ça opérationnel, comme vous dites, Madame Gazal, là, parce que, disons, là, une petite Rouba Gazal dans un an, qui est dans sa classe. Si les parents doivent parler avec le prof parle anglais, les parents immigrants parlent anglais, s'ils sont à leur 7e mois de résidence, est-ce que je comprends que le prof n'a pas le droit de leur parler autrement qu'en français?
Ben, en fait, comment c'est écrit dans la loi, c'est comme la volonté du gouvernement de dire on va protéger le droit du prof de pas parler français.
OK.
De pas parler anglais, okay. Exactement. C'est ça la volonté du gouvernement.
Mais quand on parle d'opérationnaliser, je veux dire, y a-t-il quelqu'un qui va aller donner un ticket au prof?
Ben ça c'est là qu'il y a beaucoup de flou puis qu'il y a des questions qui sont pas répondues. Mais tout de suite, la pièce maîtresse après le projet de loi, c'est une politique linguistique où le gouvernement va dire comment est-ce qu'on va rendre ça opérationnel. Et après ça, les ministères et organismes, notamment le ministère de l'Éducation, les commissions scolaires, comme pas les commissions scolaires, mais les centres scolaires, le centre de services scolaires, comme à Montréal, où il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup d'immigrants. Là, ils vont dire comment, dans une directive, nous, on va vraiment le faire. Est-ce qu'on va faire appel à des interprètes? J'ai posé des questions au ministre. Est-ce que c'est possible d'augmenter le budget pour faire appel à des interprètes pour pas tout de suite aller vers l'anglais puis peut-être aider à avoir des interprètes qui sont présents? Évidemment, ils pourraient pas être présents tout le temps. C'est pour ça que ça devient compliqué, extrêmement compliqué. Et surtout, ça inquiète les gens. Ça les inquiète. Et c'est ce message-là, moi, pour moi, qui est important pour que le petit Ruba qui nous écoute entende pas qu'on est là et qu'on veut les punir avec le français. Au contraire, faut qu'ils l'aiment. Il faut qu'ils aient une belle expérience bienveillante comme la mienne. Et c'est pour ça que nous, on dit qu'on va rendre ça inopérationnel.
OK. Qu'est-ce que vous aimez? C'est quoi la grande force de ce projet de loi-là pour vous?
Je suis allée peut-être trop loin. Il y a aussi les Autochtones. Nous, à Québec solidaire, ce qu'on dit, c'est on va, de nation en nation, on va adopter un projet de loi pour valoriser leurs langues autochtones. Le ministre les a invités en commission parlementaire, il ne les a pas écoutés. Et ça, c'est une autre occasion manquée. Ce qu'on aime, là, il y a plusieurs choses dans le projet de loi qui sont des belles avancées. Il y a, par exemple, un guichet unique pour apprendre le français. C'est une demande historique des organismes qui font de la francisation, qui donnent des cours aux nouveaux arrivants en français. Fait que là, il y a un guichet unique. Il va y avoir un commissaire à la langue française qui va être nommé aux deux tiers par les élus de l'Assemblée nationale. Les entreprises à charte fédérale, comme les banques, par exemple, les compagnies d'assurance, se vont être soumises à la charte québécoise là, de la langue française. Donc ça, c'est des belles avancées, puis il y en a beaucoup dans le projet de loi. Et c'est pour ça qu'on dit, OK, il y a une belle avancée, on va l'appuyer, mais c'est pas notre projet de loi. Si Québec solidaire l'écrivait aujourd'hui, mais on serait allé beaucoup plus loin, notamment en francisant les milieux de travail, pour que la charte de la langue française, la loi 101, bien, qu'elle s'applique aux entreprises avec 10 employés et plus. Là, il y a une avancée, on l'applique aux entreprises de 25 employés et plus, parce que la langue du travail, c'est là qu'on passe la majeure partie de notre temps. Puis c'est la langue du travail doit être en français au Québec, et c'est pas encore assuré.
OK. Dans la communauté anglophone, il y a plusieurs informations qui circulaient, des informations qui étaient contestées, là, puis il y a question d'interprétation là-dedans, là, notamment sur la langue qui pourrait être utilisée entre les patients et les médecins. Qu'est-ce qu'on sait là-dessus?
Oui, écoutez, moi, là, je l'étudie depuis un bout de temps, et là aussi, le ministre et le CAQ et M. Legault ont raté une chance historique pour nous unir autour de la langue française. Ils auraient pu répondre à toutes ces questions-là dès le début. Ils ont entretenu le flou tout le temps. C'est ce qui fait que les gens sont inquiets et ont l'impression qu'ils n'ont pas de réponse. Il y a un article dans la loi sur la santé et les services sociaux, l'article 15, qui n'est nullement touché par le projet de loi 96 et qui protège dans le système de santé, partout là, dans la santé, le droit pour n'importe qui, pas juste les anglophones, n'importe qui, pour parler en anglais dans le système de santé. Il y a aussi des exceptions sur le 6 mois. Si, par exemple, la santé, la sécurité, il y a une autre expression qui m'échappe. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup matière à interprétation pour amener des exceptions. Et c'est ça que le ministre Jeanlin Barrette et M. Legault n'ont pas fait. Camille Lorrain, là, en 1977, quand il a fait adopter la loi 101, juste avant, il a pris son bâton du pèlerin, puis il a fait le tour du Québec. Il est allé rencontrer les communautés culturelles, les milieux d'affaires, partout, les anglophones où les gens étaient inquiets, pour leur expliquer c'était quoi son intention, qu'est-ce qu'il veut faire. Il veut protéger la langue française, la langue du travail. Évidemment, à la fin, est-ce que tout le monde était d'accord? Bien sûr que non, mais il y a eu un consensus jusqu'à tout récemment autour de la loi 101. Et là, malheureusement, ce consensus-là est brisé parce que le gouvernement n'a pas ouvert les bras, n'a pas démontré de l'empathie en répondant à ces questions tout à fait légitimes, surtout qu'il n'y avait même pas matière à inquiétude, notamment dans le système de santé. Il n'y a pas de problème, je rassure les gens, puisque le gouvernement a refusé de le faire, qui nous écoute, quand vous allez voir votre médecin, si vous parlez en anglais, il a toujours le droit de le faire, même après l'adoption du projet de loi 96. Si ce projet de loi primait les droits des anglophones, la minorité historique anglophone, Québec solidaire, on aurait été les premiers à être contre, mais ce n'est pas le cas.
Ben, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui, Mme Gazal. Bonne journée.
Merci à vous.
Salut. Ruba Gazal, qui est député de Mercier pour Québec solidaire.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.